10h40 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. C'est moins 9 degrés à Québec, moins 16 ressentis. On va rester dans ces eaux-là pas mal aujourd'hui. Dans les prochains jours, ça va se réchauffer. Demain, mardi, c'est moins 6. Mercredi, 0. Jeudi, 0. Et vendredi, c'est 3 degrés avec de la pluie. Mais inquiétez-vous pas, là, on va avoir un Noël blanc d'après moi parce que samedi, on retombe à moins 8 avec de la neige. Il était dans une destination exotique au courant du week-end. Kev Dubé du Journal de Québec qui était du côté de Niagara Falls. Salut Kev!
Salut Marc, je trouve que tu as le exotique un peu fort.
Comment tu vas dans ce retour à la réalité du Québec après avoir vécu un week-end à Niagara Falls?
Ah, féerique, vraiment, je repars avec des beaux souvenirs. Non, j'ai pas eu le temps de visiter. Là. Je suis allé prendre une petite marche sur le bord des chutes Niagara quand même pour m'aérer le cerveau. Non, j'ai pas eu le temps beaucoup. Je suis arrivé jeudi soir très tard, puis ça a commencé vendredi jusqu'à depuis que je suis reparti hier soir.
Là, c'est ça.
Un court voyage, mais ça a été intéressant quand même.
Camp d'équipe Canada Junior 2026. Puis là, il faut dire que le format du camp, c'est pas la même affaire que les autres années. T'sais, d'habitude, c'était un camp de sélection, puis là, on invitait bien du monde, puis on faisait des coupures, puis à la fin, t'avais ton équipe là. Pas mal tout le monde qui était là en fin de semaine va être de l'équipe au Mondial Junior.
Ouais, à quelques exceptions près. Dans le fond, ce qu'on a fait du côté d'équipe Canada, c'est qu'on s'est assuré d'avoir la majorité de l'alignement pour pouvoir commencer à se préparer tout de suite. Là. Souvent, on se le cachera pas, l'équipe Canada invitait 32-33 joueurs, mais leur aidé était pas mal déjà faite de l'équipe qu'il y avait. T'sais, souvent, on arrivait, puis même les joueurs qui faisaient bien au camp, si au départ, ils faisaient pas partie des plans, ils étaient quand même retranchés. Je pense à Beckett Seneca, qui est le meilleur pointeur des recrues cette année dans la Ligue nationale. L'année passée, il n'avait pas été invité au camp au départ. Finalement, il avait reçu une invitation par après à cause d'une blessure, je me souviens plus à qui. Il avait été, à mon avis, le meilleur joueur offensif du camp, mais on l'avait quand même retranché. Donc,
parce que l'idée était faite au départ.
Exact. Tant qu'à faire perdre du temps à certaines personnes, je pense qu'on a décidé d'y aller avec l'alignement pour pouvoir se concentrer sur la préparation. On a gardé quand même quelques places de disponibles parce qu'il y a encore des joueurs de la Ligue nationale qui pourraient revenir.
Ça, est-ce qu'on est fixé là-dessus? T'sais, il y a eu des annonces déjà officielles de qui allait être prêté à l'équipe Canada junior, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des surprises?
L'équipe Canada junior se donne jusqu'au 20, maximum 22 décembre pour avoir des réponses. Présentement, les joueurs de la Ligue nationale qui sont de retour, on a Michael Misa des Sharks de San Jose qui n'a pas participé au camp jusqu'à présent parce qu'il soigne toujours une blessure. Il est resté à San Jose pour continuer sa convalescence avec les Sharks, mais il va être de retour dans l'entourage de l'équipe bientôt. Harrison Brunicki, aussi un défenseur des Penguins de Pittsburgh, puis Zane Perrec des Flames de Calgary. C'est les trois qui sont de retour. Macklin Celebrini serait disponible. On s'entend qu'il ne reviendra pas. Je parlais de Seneca, je pense pas non plus que les Ducks le renvoient. Il y a Ben Kindle avec les Penguins de Pittsburgh qui a un rôle quand même assez important. Là, il joue sur troisième trio, sur le premier avantage numérique. Lui aussi, je serais surpris. Celui dont on parle le plus, c'est le défenseur Sam Dickinson des Sharks de San Jose. Ce serait un retour exceptionnel parce que, pour plusieurs raisons. Première des choses, c'est un excellent défenseur. Deuxième des choses, son entraîneur, c'est Dale Hunter. Il sait absolument comment l'utiliser. Puis il viendrait stabiliser une défense qui est un peu jeune quand même. Là, il y a deux joueurs qui sont admissibles au prochain repêchage qui font partie de la brigade. C'est à suivre, mais d'ici le 20, le 20 ou le 22, on devrait être fixé.
Tu publiais, Kev Dubé, un texte dans le journal en fin de semaine sur les dossiers qu'on surveillait au camp. Tu mentionnais le nom de l'espoir du Canadien Michael Hage, puis le rôle qu'il aura avec l'équipe Canada junior. Est-ce qu'on est un peu fixé là-dessus?
Il n'y a rien de fixé, mais ce qu'on peut dire présentement, c'est que l'audition qu'il y a avec l'équipe Canada, c'est dans un rôle offensif. On le voit dans un rôle offensif. Il s'est entraîné sur le deuxième trio avec T.J. Ginla, notamment le fils de Jerome Ginla, durant les deux premiers jours du camp. S'est entraîné aussi sur la deuxième vague d'avantages numériques. On voit en lui un joueur qui va avoir un rôle offensif. Puis c'est compréhensible. Là, c'est un gars qui domine offensivement dans la NCAA cette année. C'est un joueur avec des bonnes habiletés. Je le regardais aller. C'est un gars qui patine vraiment bien. Il est fluide. Un bon lancé. Donc, clairement, présentement, ça peut changer. Là. Michael Misa n'est pas revenu encore. Quand il va revenir, ça va un peu décaler tout le monde aussi. Ça va replacer pour citer Martin Saint-Louis, tout le monde dans les bonnes chaises. Mais pour l'instant, on semble vouloir lui faire confiance offensivement. Reste à voir s'il va saisir cette chance-là.
Il y a un Québécois cette année avec le
ah
club.
Ah oui? J'ai pas entendu parler.
Caleb Desnoyers des Wildcats de Moncton, choix de début première ronde du Mammouth de Luton, dernier repêchage de la LNH. Lui, est-ce qu'on le voit dans un rôle offensif ou est-ce qu'il va être plutôt un second violon?
Ben, écoute, pour l'instant, comme je disais avec Age, c'est encore préliminaire, mais pour l'instant, ce qu'on a vu de lui, il jouait au centre du quatrième trio, en désavantage numérique aussi. Caleb Desnoyers, c'est ça l'avantage aussi qu'il a. C'est
il peut jouer partout.
C'est un gars qui peut jouer partout, puis c'est un gars aussi, puis on y en a parlé un peu hier, on lui a dit, c'est le rôle que tu as présentement, est-ce que tu penses que c'est le rôle que tu vas avoir, puis... Il dit, ben c'est le rôle que j'ai présentement, mais dans. Desnoyers a gagné partout où il est passé. Là. Il a gagné dans le Midget 3, il a gagné dans la JMQ l'an dernier, il a gagné trois fois avec Hockey Canada. Puis les trois fois qu'il a gagné avec Hockey Canada, il avait toujours commencé dans un rôle un peu secondaire. Puis plus le tournoi avançait, plus il forçait la main des entraîneurs. Puis à la fin, il se ramassait avec un rôle super important. Fait que je pense que c'est un peu son but aussi encore. C'est un gars, veut pas qu'il est jeune. Là. C'est un gars de 18 ans. C'est un tournoi souvent qui est réservé aux joueurs de 19 ans. Lui, c'est un 18. Qui a manqué le début de saison aussi à cause d'une opération au poignet qu'il avait eue durant l'été. Donc, il se remet tranquillement en forme, mais c'est vraiment un couteau suisse, le Caleb Desnoyers. T'sais, c'est le seul Québécois, mais je pense qu'il va avoir un rôle important. Pas nécessairement le gars qui va finir premier scoreur du tournoi, là, mais un gars qui va être capable de jouer contre les meilleurs trios adverses puis d'être très efficace en désavantage numérique.
J'allais même pas l'aborder parce que on a fait le tour puis on fait le tour à chaque année. Là,
ouais, c'est le jour de la marmotte à toutes les années.
Mais ouais, ton take, c'est Québécois. Puis là, surtout cette année, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on avait eu un camp entre guillemets normal comme les autres années, peut-être qu'un gars comme Carbonneau aurait été invité puis aurait été coupé, comme tu l'expliquais tantôt, qu'on l'invite parce qu'on l'invite, mais qu'on sait qu'il fera pas le club. Un Québécois dans la formule de cette année, c'est juste normal. Là. C'est
pas... Ben écoute. Est-ce que Justin Carbonneau aurait mérité une place? Je pense que la réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'il y a 25 autres gars qui auraient mérité une place au camp aussi? Je pense que la réponse, c'est oui. Puis quand tu regardes l'alignement cette année, tu sais, il y a 24... Sur 26 joueurs, il y a 24 choix de première ronde. Là-dedans, il y en a 3 qui vont l'être, là, mais je les inclus là-dedans. Là, tu sais, Gavin McKenna notamment, qui vont l'être en 2026. Fait que Hockey Canada a pris la majorité des meilleurs joueurs. Ce que je réponds à... Ça fait une semaine que j'ai ce genre de débat-là avec certaines personnes depuis l'annonce des invitations. C'est si tu prends Justin Carbonneau, tu le mets à la place de qui sur le top 6? Parce qu'il faut pas se faire de cachette. Équipe Canada, puis il le répète souvent, c'est pas une équipe d'étoiles. C'est une équipe... Il faut que tu bâtisses une équipe de hockey. Puis Justin Carbonneau est un joueur peut-être un petit peu plus unidimensionnel que certains autres. C'est un gars c'est un franc-tireur exceptionnel. C'est un gars qui marque des buts. Je pense qu'au moment des invitations, il y avait 23 buts en 23 matchs.
Ça, c'est comme... puis on pourrait rentrer Justin Poirier là-dedans
même
aussi.
Chose,
là,
qui même
est
chose.
Un scoreur de buts qui va super bien tirer. Il y en a aussi qui disent qu'il aurait dû être invité.
Exact.
C'est la même affaire.
Est-ce que tu enlèves Michael Hage? Est-ce que tu enlèves... Tu sais, je parlais de T.J. Ginla. T.J. Ginla, c'est le sixième choix total, je pense, du Mammouth de l'Utah. Gavin McKenna, oublie ça. Porter Martone, qui va probablement être, je pense, ça va être le meilleur joueur, en tout cas, un des joueurs les plus dominants de l'équipe canadienne. Michael Misa, qui revient de la Ligue nationale. Tu sais, à un moment donné, le talent est là cette année. Comme je dis, Justin Carbonneau aurait eu sa place. Si à la fin du tournoi, cette équipe-là n'est pas capable de marquer des buts, ce dont je doute fortement.
Mais c'est parce que c'est ça à chaque année aussi le débat. Il y en a qui disent regarde, là, d'avoir des gros gars qui jouent défensif, c'était 3-4, on peut-tu prendre les meilleurs joueurs disponibles? Puis, parce que là, dans les dernières années, ça a été un problème, ça, un peu. Puis le tournoi se finissait, puis on se disait. Peut-être qu'on aurait dû en prendre des gars qui scorent plus de buts.
Je redonne l'exemple de Beckett Seneca l'année passée. T'sais. On a pris des gars comme Luca Pinelli, qui était le favori du coach Dave Cameron parce qu'il jouait pour lui avec Ottawa.
Très connu dans sa famille.
Très connu dans sa famille, mais un joueur défensif qui, c'était pas nécessairement un joueur offensif. Puis l'année passée, on a eu de la misère à marquer des buts, puis on n'avait pas de profondeur pour ça. Je pense, honnêtement, que cette année, Hockey Canada a fait différent. Ils ont pris des joueurs de rôle quand même, certains, mais la majorité de ces gars-là, c'est des gars qui peuvent marquer, c'est des joueurs offensifs. Tu sais, quand je parlais de choix de première ronde, quand il y en a 24, c'est pas des joueurs défensifs. Là, je me souviens, il y a 2 ans, on avait pris un certain Owen Allard, qui n'était pas repêché. C'était un gars que tout le monde avait fait comme « Mais qu'est-ce qu'il fait là? » Tu sais, c'est un joueur purement défensif. Mais je pense que cette année, on a pris les bonnes décisions en y allant avec le talent, en choisissant les meilleurs joueurs. Puis après ça, ben, on va essayer de les faire fitter dans certains rôles. Mais tu sais, on pourra s'en reparler. Il y aura toujours des déceptions. Puis à toutes les années, on parle un peu plus. On dirait qu'on parle plus des joueurs qui ont été ignorés que des joueurs qui ont été qui ont fait l'équipe. Mais j'ai de la misère à voir où est-ce qu'on aurait pu placer un Justin Carbonneau ou Justin Poirier dans le top 6.
Gavin McKenna, 17 ans, qui va avoir 18 ans dans ben exactement 5 jours,
ouais.
Fait le club. Gavin McKenna, qui depuis des années est vu comme le premier choix overall du repêchage 2026 de la LNH. Là, il y en a qui commencent à remettre ça un peu en question parce qu'il, entre guillemets, déçoit NCAA avec Penn State. Il y a quoi? 18 points en 16 games, seulement 4 buts. Je pense qu'il y a beaucoup de points en powerplay là-dedans. C'est un différentiel de moins 5. Il y en a beaucoup qui le voyaient dominer beaucoup plus que ça, même en faisant le saut NCAA. Ça va être quoi son rôle avec Team Canada? Puis, c'est-tu important pour lui de venir consolider son statut de premier choix au total si, selon toi, il est vraiment en danger, ce statut-là?
Moi, je ne suis pas convaincu qu'il est tellement il est en danger tant que ça. Là. Présentement, je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Puis, il y a peut-être un peu aussi de gens qui... sur la sphère publique qui essaie de se faire un peu de capital puis essaie d'avoir de l'attention en le plaçant. Tu sais, je l'ai vu placer quatrième. Je trouve que c'est un peu ridicule. Tu sais, moi, ce que je disais, c'est... Puis c'est drôle parce que j'avais la discussion avec le... Puis je vais le citer, il va être content, le collègue Stéphane Leroux de RDS. On en a parlé hier, justement, à Niagara Falls. Première des choses, Gavin McKenna a choisi d'aller dans NCAA. Il pourrait cette année être encore dans la Ligue de l'Ouest. S'il était dans la Ligue de l'Ouest,
il détruirait la Ligue.
Il y aurait 85 points en 30 games. Puis tout le monde dirait, mon Dieu, c'est le meilleur, c'est le premier overall. Puis c'est un late. Si c'était pas un late l'année passée, s'il était né deux mois plus tôt, est-ce qu'il aurait été choisi avant Matthew Schaefer au repêchage?
Probablement.
Probablement, il jouerait avec les Islanders de New York cette année. Fait que quand on met ça en perspective, on se fait comme, regarde, Gavin McKenna, ça va être... le dynamo offensif de l'équipe canadienne, je l'ai vu. Là, l'avantage numérique ne passe que par lui.
Ah ouais.
Tous les jeux sont dessinés. On a commencé déjà à voir un peu la façon dont l'avantage numérique se dessine. Puis tout va passer par lui. C'est lui qui est le chef d'orchestre de cet avantage numérique-là. C'est un gars qui est extrêmement habile avec la rondelle, qui a une vision de jeu incroyable. T'sais, je l'ai vu aussi l'année passée à la Coupe Memorial à Rimouski. C'était le meilleur joueur du tournoi. Est-ce qu'il est aussi exceptionnel que ce à quoi on s'attendait? Peut-être pas. J'ai l'impression que l'on le compare un peu avec les Macklin, Celebrini et les joueurs qui ont eu beaucoup de succès dans la NCAA. Il est peut-être pas aussi exceptionnel que ça, mais il était aussi un peu victime du fait qu'on le scrute et on le surscrute, si c'est un mot, depuis trop longtemps. Puis là, c'est souvent le problème avec les late, les joueurs qui sont repêchés un an plus tard. C'est qu'on a 3 ans pour les voir, puis la troisième année suivante, on se met à regarder les défauts plus que les qualités. Mais c'est sûr, moi, je pense que Gavin McKenna va finir dans les meilleurs marqueurs, si c'est pas le meilleur marqueur du tournoi. Puis à la fin de ce tournoi-là, on va faire comme, ouais, finalement, il est peut-être pas si mauvais que ça.
En terminant, Kev Dubé du Journal de Québec, on adore les controverses de gardiens au Québec. Est-ce qu'on va en avoir une avec Équipe Canada cette année ou le numéro 1 est clair?
Je pense que le numéro 1 est clair en commençant le camp. Je pense que c'est Carter George parce que peu importe ce qui s'est passé l'an dernier, l'équipe a été extrêmement décevante, mais le gardien George avait été très, très bon avec l'équipe Canada l'année passée. Il est de retour. Je pense que c'est lui, d'office, le gardien numéro un, mais le directeur général de l'équipe canadienne a sorti une citation qui est un peu frappante le premier jour du camp. Il a dit, on a des joueurs de retour de l'an dernier, c'est vrai, mais quand tu finis cinquième l'année d'avant, t'es un joueur de retour seulement si tu réussis à faire le club. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de place. Okay. Il n'y a pas de place acquise pour personne. Moi, j'ai beaucoup aimé Joshua Ravensbergen, qui est un choix de première ronde des Sharks de San Jose, qui est un colosse de 6 pieds 5, qui a une saison exceptionnelle avec je pense que c'est Prince George dans la WHL. Il va être dur à retrancher. C'est sûr que là, il y a deux gardiens, tu sais, George et Jack Ivankovic, qui étaient là l'année passée aussi. C'est les deux gardiens qui étaient là l'an dernier. C'est difficile de les renvoyer à la maison, mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Ravensbergen. Si on décide de le retrancher, ça va être lui l'homme de confiance l'année prochaine, sans l'ombre d'un doute. Là, c'est un monstre. Puis c'est un des beaux espoirs au Canada qu'on a eu devant le filet. Puis c'est une des premières années aussi depuis longtemps où on se pose pas tellement de questions devant le filet qu'on sait qu'on a plusieurs gardiens qui peuvent faire le travail. T'sais, souvent, c'était la grosse question.
C'est pas ça va être le moins pire, c'est exact, ça va être le meilleur.
C'est ça, exactement. Fait que ça va être une belle lutte. Là. Il y a des premiers matchs hors concours déjà à partir de mercredi, je pense. On va avoir une meilleure idée, mais Ça va être une lutte très intéressante à suivre.
Kev Dubé du Journal de Québec, un gros merci.
Toujours un plaisir.
Si on ne se reparle pas, ben de joyeuses fêtes.
Qu'on va se reparler.
Je pense qu'on va se retexter au moins, là, mais en ondes. Si, mais tu sais, t'es toujours le bienvenu, dis-je très mal. Au retour, Audrey Pinchot vient faire son tour. Puis je pense qu'elle a retrouvé un peu de voix en fin de semaine. Mais si vous voulez en avoir la preuve, ben il faut que vous soyez là dans quelques minutes. Le Point Max.